Fréquence Mistral.
Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir de recevoir dans nos studios aujourd'hui Miloud Haris. Miloud Haris, c'est un humoriste cannois qui écume les plateaux de stand-up, les comédie clubs, les théâtres depuis plusieurs années maintenant. Il a retourné le comédie club du Vieux-Port à Marseille avec des 30-30 mémorables, avec des passages et des sketchs qui commencent à devenir cultes pour le petit monde du stand-up marseillais. Et il arrive l'année prochaine avec un spectacle, son premier spectacle, La vie en pause. Donc, bienvenue à toi, Miloud.
Merci, merci. Waouh, quelle introduction.
Oui, oui, tu as vu tout à l'impro, comme d'habitude.
Incroyable.
Donc, Miloud, c'est un plaisir de te rencontrer. Est-ce que tu, pour te présenter ou en tout cas dire qui tu as des choses à ajouter? Parce que je n'ai pas tout dit, forcément.
Ah bah écoute, moi, jeune papa de deux filles, la deuxième récemment, donc c'est cool.
Et
merci beaucoup, merci beaucoup. Restez célibataire et sans enfant si vous voulez dormir. Non, mais non, sinon, écoute, un saltimbanque, quoi. C'est comme ça que je me caractérise. Je prends ma petite voiture et je voyage. On m'a souvent vu avec mon poteau Pablo, où, tu vois, on fait parfois des et deux heures.
Pablo Caillot.
Hein, Pablo Caillot, excusez-moi, oui. Pablo Caillot, et tu vois, on fait des deux heures, trois heures de route. On va jusqu'à Montpellier, on va à Marseille, Lyon, et parfois ça arrive, on fait deux heures. 7 minutes de vide et tu rentres, mon pote.
Ça, il faut avoir envie, il faut aimer.
Ouais, tout à fait, mais c'est aussi ce qui fait que pour moi, c'est la meilleure école. Et je pense que ça montre aussi le fait qu'on adore ce qu'on fait. Vraiment, ouais. C'est génial. C'est comme un peu, c'est un peu une drogue où tu te dis je vais arrêter. Le lendemain, tu retombes dedans.
Quoi. Ouais, bien sûr.
Mais tu kiffes.
C'est l'amour qui peut pousser à ça. Parce qu'effectivement, faire des deux heures de route pour voir des gens te faire la gueule pendant 7 minutes, j'imagine que ça devait être des bons moments. Est-ce que tu peux. Alors, nous, c'est la question traditionnelle ici. On aime demander aux humoristes de nous raconter leur première scène. Donc, si tu peux nous raconter ta première scène.
Ma toute première scène en stand-up ou autre chose éventuellement.
En stand-up, et si tu as fait d'autres choses à côté, on est
prêts. Bah écoute, en fait, la scène au départ, ça a été avec la danse, parce que je faisais du breakdance à l'époque.
Okay.
On ne dirait pas comme ça, c'est vieux de 30 kilos, mais je faisais de la danse comme ça, tu vois, j'étais b-boy, mais j'étais nul.
Ok.
J'étais nul, mais j'adorais faire ça. Et un jour, fête de fin d'année lycée, je fais genre que je suis au public, les gens ils m'appellent et je rentre comme ça et je fais un pas. Tu sais, j'étais en feu, mais j'étais nul. Oh, c'était ridicule. Je fais une coupole. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est t'as les jambes un peu dans tous les sens et tu passes par le dos, tout ça. Et voilà, on va dire, c'était ma première expérience de scène. Première expérience de scène après en stand-up. Ben, en fait, il y avait un concours qui s'appelait Les Fours du Rire à Nice. Et tu vois, c'était de l'humour en règle générale. T'avais des gens qui faisaient du one, du clown, tout ça. Et j'avais fait mon premier sketch, c'était sur l'avion, l'Airbus 777 qui avait disparu des ondes radio, c'était ça. Et je faisais des blagues racistes, c'est terrible.
Ok, des blagues racistes sur
je faisais les accents.
Ah oui.
Je faisais les accents.
Ah oui, il y avait du Michel Leb en toi.
Ouais, tu vois, comme quoi je suis blanc aussi. Mais non, c'est quoi, non, mais...
Genre, t'es français en tout cas, ça c'est certain.
Ça c'est certain, on ne l'enlèvera pas. Mais non, mais en fait, tu sais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des personnes qui font un humour et qu'on va dire « Ah, c'est raciste ou quoi ?», j'ai pas envie de juger, dans le sens où je me dis « Mais est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle dit ?» tu vois.
Oui, oui.
Et moi, à l'époque, j'étais jeune, tu vois, je me faisais rire. J'ai grandi avec Jamel Debbouze qui imite la daronne, tu vois, Gad Elmaleh avec, tu vois, la positivité. Oui. On a tous grandi avec ça, tu vois.
Ah, bien sûr.
Et du coup, nos repères, tu reproduis. Mais pour le coup, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la scène. J'étais arrivé en finale, à ma grande surprise, j'avais aucune expérience.
Okay. Donc c'était l'envie et la joie de le faire.
Ouais. Et celui qui a gagné, c'est un copain, c'est Hassan de Monaco.
Ah oui, je vois très bien.
Il avait gagné ce truc. Je me rappelle, il faisait un sketch sur son papa, et tout ça, sur les mathématiques, qui est très drôle, et sur le fait qu'il est infirmier anesthésiste, tu sais. Mm-hmm. Et voilà, et du coup, après, j'ai vachement lâché, j'ai pas joué. Je jouais de temps en temps, je faisais de l'impro comme ça, avec des copains. C'était une troupe, mais on faisait pas de match, c'était pas structuré. Et après, pendant un grand moment, j'ai plus fait de scène.
Okay.
Mais quand je te dis plus de scène, c'est que même quand j'en faisais pas des masses. Parce qu'à Nice, faut savoir qu'à l'époque, c'était grosse prod. C'était Pascal Scaven qui faisait ça. Et avant même Pascal, il y avait Vinyl. C'était Jonathan Lecoq, tout ça, qui faisait les premières scènes. Et comment ça se passait? Ça, c'est après les Fours du Rire, hein, tu vois. Mm-hmm. Ça se passait une fois par mois dans un pub. Dis-toi que la moitié parlait pas français.
Ah oui, mais c'était l'Oxford, non, c'est ça?
Exactement, oui, mais mec, tu connais.
J'ai vécu à Nice 3 ans, donc je me
mais
rappelle.
Mais oui, l'Oxford, l'Oxford, et que je salue, qui sont trop cool. Et je me rappelle, j'attends, il arrive, c'est un musicos, tu vois, lui. Il arrive, tu sais, il est en mode, ça va les gars, ouais, super. Et tu sais quoi, première scène, c'est moi qui fais la toute première scène de l'histoire d'Oxford. Il y avait Eddie Portman, et il y avait Kader Diaby.
Okay, oui,
Kader Diaby qui est youtubeur, tout ça et tout.
Oui, Eddie Portman qui est un bon stand-up.
Eddie Portman qui est un poteau avec qui j'ai beaucoup écrit avec lui à l'époque. On écrivait ensemble et tout. Et genre, on se regarde comme ça. Fait, qui c'est qui passe premier? Je fais, allez, nique sa mère, j'y vais. J'y vais. Et j'avais un sketch sur Koh-Lanta à l'époque. Koh-Lanta et Man vs Wild. Et du coup, toutes les personnes qui me connaissaient de cette époque, ils me disent toujours la même vanne, tu vois, parce que j'imitais Bear Grylls.
Ok, oui, yes.
C'est le
oui,
survivant,
je vois très bien dans Man vs Wild, le commando
ouais,
anglais.
Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais une vanne où je disais, tu sais, il nous décrivait ce qu'il mangeait.
Oui, oui, oui.
Tu vois, et à chaque fois, quand je lui disais, je disais, oh, ça sent le carton mouillé, le pu, tu vois. Et du coup, tout le monde me sort cette vanne. Et c'est fou quand tu vois que les premières blagues que tu fais, c'est pour faire rire. T'as pas, nous, on n'a pas de technique, on n'a pas été formés, tu vois. Ouais, vraiment. Oui. Et en fait, plus tu avances et plus tu as envie de poser un propos, tu as envie de dire des choses intéressantes, tu as envie de faire rire sur des choses qui sont peut-être pas spécialement drôles, ou même si tu fais de la vanne pour de la vanne, mais tu as envie que ce soit mémorable pour les gens.
Qu'elle ait un sens ou qu'il y ait quelque chose de profond. Mais,
tout à fait.
Mais je sais pas si c'est... Alors ça, c'est mon avis personnel parce que je regarde quand même beaucoup de spectacles, aussi beaucoup d'humoristes dans le temps. Et j'ai l'impression que justement, il y a cette phase au début où on veut juste être drôle, puis ensuite on veut amener quelque chose de profond, de sincère, on a cette envie. Et après, j'ai l'impression que les vieux humoristes, ils ont juste envie de redevenir drôle. Et j'ai l'impression vraiment que c'est une courbe... Alors ça, c'est juste une appréciation personnelle.
C'est marrant personnelle. Ce que tu dis, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, moi, je vais te prendre un exemple. Moi, j'ai un humoriste, par exemple, son spectacle, c'est que les accents. Et okay. Pourtant, pour moi, il n'y a pas une once de racisme, c'est Dial.
Ah, j'ai pas vu.
Tu vois, Dial, il est connu pour son sketch sur les Portugais.
J'ai pas en tête.
Tu sais, mais... qui fait tu vois, en fait, il fait tout un sketch qui est sur le Jamel Comedy Club qui a pété.
Mm-hmm.
Et en fait, ce qui est marrant dans son sketch, c'est du one, hein, c'est du one man. Ce gars, il remplit des zéniths et tout. C'est un mec hyper solaire, hyper sympa, apparemment. Je le connais pas, hein, tu vois, mais tous les humoristes copains qui l'ont vu m'ont dit tout. Et il fait que ça.
Ouais.
Et lui, c'est vraiment être drôle pour être drôle. Et je me dis peut-être que le message qu'il a à travers ça, le fait que comme il fait tous les accents, eh ben, tu vois, t'es pas mal à l'aise.
Oui, oui.
Quand il te le fait, tu te dis pas. En fait, si tu veux, quand tu rigoles d'affection. Mmh. Parce qu'il y a. Moi, le sketch qui m'a marqué de lui, et je l'ai regardé avec mon père. Tu vois, que mon père vient d'Algérie. Il est venu à 20 ans, tu vois.
Il a un accent prononcé ou pas?
Mon père a un petit accent, ouais. En fait, si tu veux, il a étudié avec les Français avant 62.
Oh, ok, d'accord.
Donc, il est né avant 62. Il faut savoir qu'après 62, en Algérie, il y a eu le passage du flambeau.
Oui.
Les enseignants restaient en Algérie pour pouvoir redonner une structure parce que l'indépendance, c'est bien, mais il n'y a pas la notice qui va avec. C'est Fellag qui disait ça, un grand humoriste algérien, tu vois, qui lui, pour le coup, punaise, en termes de message et tout, c'est costaud, mon pote. Hein.
Ouais, bah, c'est ce qu'on retient le plus. Après, c'est vrai que c'est ce qui laisse une trace dans l'histoire parce que les Coluches, etc.,
ouais.
C'est les messages qui sont restés en
c'est
vérité.
Incroyable.
Ou les bonnes phrases, ou les bons mots. Mais justement, toi, en parlant de messages, Milo, du coup, tu arrives avec ce spectacle. Donc, je rappelle La vie en pause.
Ouais.
Donc, un spectacle de une heure. Alors, je présume que c'est en lien avec une aventure peut-être paternelle ou autre, vu que tu mets en pause, ou c'est un autre moment de ta vie?
Pas que.
Pas que.
Pas que, oui, oui, bien sûr, la paternité, ça en fait partie, mais c'est pas, alors voilà, c'est pas un sketch que sur papa, quoi.
Oui, oui.
Le fait d'être papa, non, je pense que dans la vie, on a tous des vies en pause.
Mm-hmm.
Tu sais, ça peut être la vie en pause, un double sens, soit tu fais un arrêt, soit tu te poses aussi, ou t'es bien. Donc, tu sais, tu tapes la pause comme dans une photo aussi.
Oh, ok, d'accord.
Ça peut être vu de différentes manières, mais en réalité, c'est quelque chose de classique, tu vois. Comme on dit, t'as vu, on recherche des anecdotes plus sincères et tout de nos vies. Et du coup, je retrace des éléments de ma vie que je trouve personnels, qui peuvent être universels, et essayer de faire kiffer les gens.
Oh, okay.
En fait, si tu veux, moi, c'est un spectacle très intimiste,
mm-hmm.
en réalité. C'est très intimiste. Je m'ouvre énormément.
Mm-hmm.
Et ouais, on passe un super moment. En fait, je parle beaucoup de galères, en réalité, et qui sont assez drôles. Je parle aussi de choses qui sont pas drôles, qui vont être drôles dans un spectacle. Je parle du racisme, bien évidemment, vu par moi. Je ne veux pas dire « la société est raciste, nanani ». Non, 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 non. C'est la première fois qu'on m'a dit ça, ça m'a fait ça, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. et même des, toutes les petites expériences, le fait d'être expat, tu sais, dans un autre pays.
Donc y a, oui, c'est vraiment pause sur, sous toutes ces, les angles possibles.
Par exemple, moi j'ai vécu en Angleterre, je me sentais plus français en Angleterre qu'en France.
Oui, mais je crois que c'est pour beaucoup de Français issus de l'immigration, c'est un ressenti.
Il y a quelqu'un qui m'a dit ça le français. J'ai kiffé. J'ai adoré.
Merci beaucoup.
Je lui ai dit merci. Tu sais, j'ai tapé un selfie, j'ai dit attends, je l'envoie à ma daronne. S'il te plaît frérot. Refait, ah, tu vois.
Je vois très bien.
Donc, tu vois, tout ce truc comme ça et des sujets pas très drôles, tu vois. Moi, j'ai un de mes frères qui a fait de la prison et je parle du procès, tu vois, par exemple.
Mmh, oui, j'ai vu.
Ouais, t'avais vu, ouais, oui, et tout. Oui. Et du coup, non, c'est marrant. Et puis, quand il était en prison, je suis allé le rendre visite, je lui ai dit, écoute, je fais un sketch sur toi et tout. Et il était mort de rire. Et je dis, ouais, parce que c'est moi qui ai payé l'avocat, il faut bien que ça me rembourse, tu vois.
Ouais, ça va, toi qui l'as réussi, en rire, c'est plus important.
Non, justement, mais c'est... le but, c'est pas de juger, c'est vraiment de... La vie, elle est comme ça, il n'y a pas de mauvaise ou bonne personne. Parfois, il y a des situations qui font qu'on fait des mauvais choix. Et vas-y, move on, tu vois, continue.
Et l'ambition, c'était quoi en faisant ce spectacle? Justement, t'avais envie de passer un message, t'avais envie de rire avec les gens, simplement, d'étirer un sketch, de pouvoir vraiment prendre le temps d'étayer tes propos. C'était quoi l'objectif?
Le message est venu après, dans le sens où quand je l'ai écrit, je me suis dit, ah, peut-être ça veut dire un truc. Mais non, avant tout, c'est kiffer.
Ouais.
Moi, c'est kiffer. Les gens ne viennent pas voir une conférence TED, quoi, tu vois. La conférence TED, je peux en faire une, tu vois, c'est pas un souci. Mais genre, vraiment, on se marre, quoi. On se marre et on rigole. Et moi, la plus belle le plus beau des retours, c'est qu'on me dit, putain, j'ai pas eu l'impression d'être dans une salle. J'ai l'impression que c'était un poteau qui me racontait des histoires, qui me faisait des blagues autour d'un dîner et tout. Quand quelqu'un te dit ça... Oh, comme t'es trop... C'est la Champions League, hein, pour des gens. C'est un truc de ouf.
Et surtout si toi tu l'as ressenti, que la connexion s'est faite avec le public, c'est une meilleure sensation pour l'humoriste comme pour le public, en vérité. C'est pas sûr, que pour le public, c'est pour toi aussi, tu passes un bon moment.
Ouais, et puis tu sais, un spectacle, je sais pas si ça te le fait, tu vois, mais dans des formats plus longs, il y a un truc que tu peux te permettre que tu peux pas en plateau. En plateau, t'es dans la performance.
Oui.
Faut que tu tabasses. Faut que dans les 5 premières secondes, si t'as pas de blague. Et démarrage en côte, t'as intérêt à maîtriser le point de patinage, mon pote.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, tu vois, vraiment, c'est un truc de ouf, quoi.
Ouais,
t'as le moteur, t'es à 5000, 20, 20, 20.
Les gens te connaissent pas, t'es au milieu d'une.
C'est ça.
Tu es obligé de faire tes preuves, c'est normal.
C'est qui ce mec, là? Il a envie de parler, va voir un psy. Non, mais c'est. En fait, on juge.
Oui,
mais c'est pas, ça veut pas dire que les gens sont mauvais, non, on le fait tous.
Oui, bien sûr.
Tu vois, déjà, on se juge nous-mêmes. Mais en plus, quand on voit les autres, on a tous un a priori, tu vois.
Oui, ben oui.
Et par exemple, tu vois, ce truc, alors qu'en spectacle, faut être drôle, c'est important, c'est très important, les gens sont là pour ça. Et c'est comme une prestation de service.
Mmh.
Les gens viennent dans un spectacle pour rigoler. Et nous, on est là pour leur donner ça, tu vois. Mmh. Et le pire, c'est quand on donne ça et que ça rit, ben nous, on est contents, tu vois.
Mmh.
Et c'est ça qui est incroyable, en réalité. Et encore plus, quand t'es pas connu,
oui.
Les gens, ils rentrent. Ils sortent, ils font « Pouah, je passe un bon moment ». Le mec, c'est charmé.
C'est qu'il y a eu une rencontre en plus de l'humour. Et justement, toi, je le disais, tu es en train de le préparer. Tu es un voyageur, un vadrouilleur du stand-up, parce que bah, avec ton ami Pablo Caio, mais avec d'autres, hein, avec Vlad, avec d'autres humoristes niçois. Vlad qui est avec nous dans le studio, faut que je le précise quand même, et qui est là pour te soutenir et te tenir la main pendant toute l'interview.
Merci Vlad.
Merci à toi Vlad. Mais du coup, tu écumes les villes et tu vois différents types de publics, entre guillemets, puisque des villes et des campagnes et de différentes villes. Est-ce que tu vois une différence déjà entre le public niçois, puisque c'est celui que tu côtoies, on va dire, le plus régulièrement,
oui, oui.
Le public marseillais? Qu'est-ce que c'est comme différence que tu vois?
Mec, Marseille, c'est tellement bien.
il s'est parlé.
Vais rentrer à Nice. Alors, Nice, vous êtes des méchants.
Oui,
vous êtes des cafards.
Ah oui, carrément, à ce point-là.
Alors, il faut savoir que l'ISCAN et le gym, l'OGC, c'est comme Saint-Etienne-Lyon.
Ok, il y a une vraie
Moi,
rivalité.
Moi, je suis canois.
Ouais, d'accord. Donc,
je suis pour l'ISCAN. Bon, on est en CFA2, donc ça sert à rien. Mais, et je suis fan de l'OM.
Peut-être en Coupe de France, vous vous retrouverez un jour contre Nice, quoi.
Ouais, mais à un moment, on a fait un bon parcours. On s'est fait jeter par Toulouse. Ils nous ont virés. On avait battu Montpellier. Et oui, aïe, je sais que là, j'ai touché un point sensible. Montpellier de Courbis, chez nous, je me rappelle. Et voilà, après, moi, je suis fan de l'OM.
Okay.
Donc, en fait, Marseille, si tu veux, j'ai un attachement particulier à cette ville. De par son histoire, déjà la ville la plus vieille de France, mais surtout le côté très cosmopolite, ça me plaît énormément. Faut savoir que Cannes et Nice, c'est très différent. Cannes, c'est un village. Nice, c'est quand même une grande ville.
Ah oui.
Et il y a une identité niçoise très marquée et qui est magnifique. Je vous invite à aller un jour, si vous avez l'occasion, de voir le vieux Nice. C'est sublime.
Oui, c'est une ville magnifique. Hein.
C'est incroyable. Après, la mentale, non, le public niçois est cool. Franchement, je le dis, je kiffe et tout. Mais en fait, peut-être parce que maintenant, je joue beaucoup plus à Marseille qu'à Nice. Je sais pas, à Marseille, il y a un côté très taquin que j'aime beaucoup. Et tu sais, tu parles de public, mais moi, je parle aussi d'humoristes et d'humour. Tu vois les identités des villes. Il y a des villes et il y a une patte. Tu sais, comme dans la musique.
Oui.
Moi, que j'ai grandi avec le rap, tu vois. Donc, automatiquement, on repère rap marseillais,
bien sûr.
Et rap parisien.
On l'entend direct.
C'est ça. Et tu vois, l'humour marseillais commence à se faire entendre. L'humour du Sud, en général. Mais tu as même Montpellier, tu vois, avec les copains de Montpellier.
Bien sûr. On le salue aussi.
Ouais, de ouf. Montpellier, j'ai adoré.
Mais il y a une identité forte des humoristes du Sud, mais c'est vrai qu'il y a des nuances entre le Sud, en fait, parce que le Sud de Montpellier, le Sud de Marseille et le Sud niçois, c'est pas du tout le même Sud, c'est pas
ça
du tout le même
monde.
Pour les Parisiens, souvent, ils mettent tout le monde dans le même gros sac, mais ça n'a rien à voir.
Rien à voir. Marseille, c'est populaire. Nice, c'est la jet set.
Exactement.
Enfin, même si nous, on ne fait pas partie de la jet set, mais on a grandi avec... voir une Lamborghini, c'est normal.
Oui, bien sûr. Mais j'ai travaillé à Nice et vécu à Monaco. Enfin, travaillé à Monaco et vécu à Nice. Donc,
Mais toi, t'es allé dans.
Ouais, j'ai vécu
le 06 Prime.
Ah oui, j'ai vraiment vécu un autre univers, un autre monde. Mais c'est vrai que c'est un monde où les gens se rencontrent, mais ils se croisent moins et ils se rencontrent moins réellement qu'à Marseille, en vérité. Parce qu'à Marseille, les gens se croisent pour de vrai. Ils vont parler ensemble, ils vont échanger, ils vont se retrouver dans les mêmes salles de spectacle. Là, c'est vrai qu'à Nice, les gens se croisent, mais ils vont pas s'arrêter pour se dire bonjour.
Ils vont dans le même café.
Oui.
C'est bête, hein. Ouais. Mais le café, c'est... Ici, tu peux avoir un homme d'affaires qui va dans un café à Noailles, il va te prendre un café fait par un blédard, tu vois. Et c'est pas péjoratif quand je dis blédard, hein. Je parle à un mec du pays.
Ouais,
et un mec qui vient, comme mon papa, qui veut juste revenir un peu, parler arabe pour se sentir un peu comme à la maison, avoir de la nostalgie du bled des années 70. Et voilà. Et ça, tu le retrouves à Marseille, quoi.
Oui, bien sûr.
Bah, Marseille, c'est beau.
Sur une seule rue, on peut croiser trois univers différents.
Exactement.
En marchant à 10 minutes. Donc
exactement, exactement. Mais si tu veux, la différence Nice et Marseille, c'est clairement le niveau. Parce que ça ne s'est pas développé au même moment.
Oui.
Marseille, par exemple, pour moi, Nice et Marseille d'il y a 10 ans.
Ok.
Bon, si tu veux, ça commence. Il y a, par exemple...
Le Bobard.
Le Bobard qui a ouvert. Donc déjà, il y a un premier comedy club physique qui a ouvert. Déjà, c'est incroyable, ça, tu vois.
Une vraie scène qui...
Parce c'est que, un truc de fou.
Et il faut le dire, c'est Pascal, du coup, de...
Pascal et Caro.
Et
ils
Caro,
sont deux.
Sa conjointe.
C'est important de le dire.
Oui, c'est vrai. Encore une fois, on invisibilise.
Non, pas du tout.
Non, mais Pascal
et
Caro...
Non, mais ils sont deux. Voilà, ouais. C'est vrai que Pascal, à l'époque, moi, je le connaissais avant, mais il n'était pas avec Caro à l'époque. Et après, depuis qu'il est avec elle, ils font un beau travail, tu vois. Et à leur échelle, ils essaient de développer les choses. Mais déjà, ils ont le mérite d'avoir ouvert un lieu et de faire en sorte que, tu vois, il y a peut-être des gens qui vont commencer le stand-up là-bas, qui vont découvrir l'univers, mais le public.
Ouais, bien sûr.
Un public qui dit, putain, il y a un comedy club. Tiens, je vais aller voir. Marseille, c'était un peu ça. Il y a eu un comedy club, il y avait les Quais du Rire, tu vois, tout ça. Et après, au fur et à mesure, moi, je suis pas connu, hein, tu vois. Mais aujourd'hui, peut-être, excuse-moi, ce que je veux dire...
je couperai le...
Il n'y a pas de problème, ce que je veux dire, moi, pourquoi je vadrouille, j'avais envie de voir autre chose. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème, non, au contraire. Tu vois des niveaux. Mec, tu te prends des gifles.
Ça t'ouvre des portes.
Oh, ouais. Oh là là, les clacasses. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, je suis avec un poteau, que ce soit Pablo, Eddy, Thomas, Amine, plein de gens de Nice, tu vois. Il y a quelqu'un qui passe. Il te fait bonjour, nanani, nanana. Tu vois les gens, mais ça rigole, ça tape sur les... Et on se regarde. Et nous, on était venus dans notre tête avec le banger.
Ouais.
Nous, on est en mode, ouais, on va représenter. Ouais, quoi, nous, on n'est pas drôle. Blablabla. Bla, bla. Mais tu sais, sans animosité, mais genre, tu sais, t'es un peu ce côté, t'as envie de représenter ta ville, tu vois.
Je vois très, très bien.
Et tu vois ça, tu fais, allez. qui c'est qui conduit au retour? T'es vraiment, tu vois.
C'est qu'il a fait le travail pour tout le monde avant que ça démarre.
Ouais. Et en même temps, ça te permet d'apprendre tellement vite, tu vois. C'est comme au foot, tu vois. Tu peux être fort et tu vois quelqu'un jouer devant toi rien qu'en le regardant. Oui, t'as appris.
Ça t'ouvre des portes. Et même des fois aussi de voir des gens, entre guillemets, plus débutants, plus moins expérimentés ou qui foirent parce qu'ils essayent quelque chose.
Tout à fait.
C'est aussi une leçon pour les autres. Hein, parce que des fois, on se dit, bon, ça, effectivement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ou des fois, on voit les grosses erreurs. Le fait de jouer avec les plateaux pour les humoristes, c'est génial parce que ça nous inspire les uns les autres en dehors des vols de vannes qui sont courts légion à Paris. Chez nous, ce n'est pas trop le cas. Mais pourtant, on arrive à apprendre parce qu'on a des très bons qui émergent. Et on a des anciens, on va dire, du stand-up aussi sur le sud de la France.
Oui, et surtout Marseille, c'est la structuration du stand-up qui a fait la force. Il y a des gens qui ont eu des cours, par exemple. Alors, pour ou contre, ça, je laisse les personnes décider. Mais je pense que si on avait une sorte de petite formation à qu'est-ce qu'une blague,
les procédés, etc. Ouais.
Voilà, comment construire une punchline, ta prémisse, angle chute, tout ça. Bah, peut-être qu'on aurait gagné du temps.
Pour moi,
il y a deux écoles. Et en même temps, j'aime tellement mon parcours.
Oui, j'allais dire, le fait de commencer à Montpellier, pour y être passé par Montpellier, où on n'a pas de formation et où on part un petit peu, tu me passes l'expression, mais avec la bite et le couteau, on se retrouve un peu dans le grand bain et très vite, on se prend des claques parce qu'on teste des choses sans savoir si c'est drôle. Des fois, on parle pendant 3 minutes en se disant la blague à la fin est drôle, mais ça ne suffit pas du tout. Mais en vérité, ça mène la vraie école dans le stand-up, c'est la scène, il n'y a pas d'autre endroit.
Ah ouais,
te préparer, c'est mieux, mais... Mais le fait, en fait, d'y aller, de voir déjà, ça, c'est le plus important, non ?
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et surtout les rencontres. Parfois, tu fais des rencontres que tu n'aurais jamais fait.
Oui.
Peut-être que tu aurais fait dans d'autres domaines de métier. Mais je veux dire, il y a plein de gens. Par exemple, nous, on s'est croisés sur scène, clairement, tu vois, en plateau, d'autres personnes. Et parfois, ça arrive. Moi, quand j'ai des copains qui me font des retours sincères. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'égo.
Oui,
quand on fait de l'humour.
C'est très dur. Bah, dans tous les milieux artistiques,
bien sûr, il y a beaucoup d'ego. Mais quand c'est des copains qui te disent eh, écoute, j'ai pas compris ce que t'as dit là. Et toi, tu fais mais ouais, mais en fait, blablabla. Bla, bla. Déjà, à partir du moment où t'expliques ta blague, c'est foutu. Je crois que c'est Gad Elmaleh qui disait ça. Et du coup, tu vois, t'apprends tellement et après, t'as des retours, t'as des points de vue différents, t'as des affinités qui se créent aussi. Ouais, et tu vois, moi, j'ai des affinités à Marseille de fou, quoi. Parce que. Je sais pas, il y a un truc qui se passe ici qui est incroyable et tout.
Il y a une vraie énergie actuellement dans le stand-up et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux qui sont en train d'émerger. On a le Marseille Comedy Club, on en parlait avant l'interview.
Ah, Seb, force,
arrive. Ça arrive très fort. Il y a le Garage Comedy, le Comedy Club
incroyable.
Du Vieux-Port, l'Ardu. Il y a prochainement d'autres Comedy Club qui doivent ouvrir. On n'a pas encore les noms, donc on n'en parle pas.
Plein de plateaux faits par plein d'artistes aussi,
itinérants. Beaucoup de plateaux itinérants qui
sont. Ça, c'est cool.
Oui, c'est génial. C'est vrai que c'est la chance de Marseille et un public très réceptif et qui vient aussi en nombre à chaque spectacle. Justement, j'ai une question plus personnelle de poser, Miloud, mais parce qu'on a quand même beaucoup d'humoristes, je sais, qui écoutent les interviews, et c'est une question de gestion de la vie privée, mais tu l'as dit, tu as 2 enfants, dont une nouvelle fille, félicitations à toi.
Merci.
Comment on fait pour gérer une carrière d'humoriste et en même temps, du coup, 2 enfants ?
Faut croire en Dieu. Faut dire Alhamdoulilah, je sais pas quoi dire.
Non, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me fascine. Déjà, quand on n'a pas d'enfant, c'est difficile. Alors
déjà, être marié, tu vois, déjà, c'est un engagement fort. Déjà, c'est que t'es pas présent à la maison. Et pour le meilleur et pour le pire, et là, je donne beaucoup de pire, mais ce que je veux dire par là, c'est déjà, j'ai la chance d'avoir une femme incroyable. Et ça pff, mec, c'est un truc de ouf. Moi, je peux te parler 2 heures, 3 jours de ma femme. C'est ouf. C'est elle, le bonhomme de la maison. Tu vois, sans hiérarchie de sexe ou quoi, mais c'est elle la patronne. C'est elle, le foyer il tient grâce à elle, quoi. Elle me soutient énormément et c'est là où, tu vois, tu sais, parfois on parle de l'amour. L'amour, le véritable amour, c'est pas spécialement celui qui va être le plus démonstratif. En termes, je t'aime, blablabla, on se dit je t'aime, tout ça et tout. Mais c'est ce que tu fais, et moi je le vois, tu vois. Signe d'amour qu'elle me dit, mais tu fais ce que t'aimes, vas-y. Je suis heureuse de te voir heureux dans ton taf. Et ça, et d'un côté, le message même pour nos enfants, d'encourager à faire ce qu'ils aiment, c'est quand même incroyable, tu vois. Après, moi, je me donne 2 fois plus. Pour moi, j'ai pas le droit à l'erreur, tu vois. C'est mes enfants, faut que... Moi, mon objectif, c'est pas d'être connu. Hein. Je m'en fous, tu vois. Franchement, j'ai envie d'aller en Normandie, personne casse les pieds, c'est cool, quoi, tu vois.
C'est quoi l'objectif, justement, dans 5 ans, là, si tu te projettes dans 5, 10 ans, j'aime bien poser cette question de développement personnel.
Dans 5 ans, j'espère qu'il n'y aura pas une guerre nucléaire. Oh, oui. Bienvenue dans le podcast complotiste dans des grands rigolos.
Ou un nouveau Covid-19, le Covid-21.
Le Covid-42.
Pour nous stériliser, on le sait.
On vous l'avait dit, on est des lézards. Non, mais le réellement, écoute, moi, j'aimerais juste vivre de ma passion. Mm-hmm. Tu vois, genre un petit 2-3K par mois. Après, il y a plus, mais vas-y, régale-moi. Mais ce que je veux dire par là, si je dois être connu, j'aimerais être pas trop connu dans le sens... Tu vois, pour moi, une carrière de fou que j'adore, c'est Verino.
Oui.
Tu vois, Verino, c'est une personne qui a son public.
Il est bien connu quand même, là, maintenant.
Il est très connu. Mais il n'est pas connu en termes superstar comme un Gad Elmaleh ou Roman Frécyné.
Oui, oui.
Un Roman Frécyné ou Gad Elmaleh, bah, il va prendre une casquette, il va devoir choisir ses endroits où aller ou autre. Ouais. Je sais pas si c'est le choix. Après, ça m'arrive, pas grave. Moi, je protège ma famille en tout cas, et moi, je prends pour eux. Mais tu vois, Averino, je pense que tu sais, il va, je sais pas, il est à Cannes, ok. Il y a des gens qui vont le regarder en mode, mais je le connais lui. Mais en fait, tu sais pas. Et il y en a des fois, ils ont vu un spectacle. Ou parfois, les gens vont le voir, ils vont faire, ah, on aime bien ce que vous faites. Après, vu mon humour, je sais que je vais avoir les sauvages. Ils vont faire, ah, Mélouda, oh, on l'a bien. Oh, bien, bien, bien. T'as vu la, oh, la blague sur le zap. Et je suis avec mes enfants, tu vois. Non, tu vois, genre.
Voilà, on a le public qu'on mérite, là, Mélouda.
Non, mais au-delà de ça, voilà. C'est, moi, franchement, tu sais quoi, je suis. Je suis pas le genre de gars qui veut dire je veux être riche ou quoi, je veux juste subvenir aux besoins de ma famille. Faudrait que je vois un comptable pour voir le salaire efficient des dépenses et des entrées d'argent. Mais si j'arrive à bien vivre, à mettre un petit peu de côté pour mes enfants et faire ce que j'aime, mais mec, je suis le mec le plus heureux au monde.
Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Inch'Allah, l'intermittence.
Inch'Allah. C'est en cours, là. C'est, franchement, c'est bien parti, là.
Bah, écoute, on espère que tu l'auras vu le plus vite possible.
Bah,
justement, ouais. Je voulais savoir c'est quoi les projets à venir. Bon, on en a parlé, il y a ce spectacle qui arrive donc en 2025, la vie en pause. On mettra l'actualité au fur et à mesure des dates qui arriveront donc au Comedy Club du Vieux-Port, mais aussi ailleurs, on le souhaite.
Ouais,
et on
normalement, au Comedy du Vieux-Port, c'est là où j'ai fait mes 30 minutes et tout, et peut-être que. Enfin, pour jouer à Marseille, pour moi, ça serait un honneur, tu vois, de le faire là-bas.
Ouais, bah, c'est bien. Bah, c'est vrai que c'est un lieu symbolique. Hein,
je peux faire une petite parenthèse.
Une dédicace.
Ouais, enfin, un gros big up à Moustazou qui, en fait, c'est la première personne à Marseille de m'avoir fait jouer. Et il m'a, je me rappelle, c'était la première personne qui m'avait choqué sur scène, moi, tu vois, ici à Marseille. Et pour les bonnes raisons, hein, je parle vraiment sur scène et tout. C'était quelque chose. Et je me rappelle, il vient, il me dit, mais tu viens d'où? Je fais de Cannes. Il me fait, mais t'es venu de Cannes maintenant? Et je fais, ouais. Tu viens, je fais 5 minutes. Je fais, bah ouais, j'ai pas le choix. On n'a pas beaucoup de scènes chez nous. Putain, t'es un fou. Et tac, et maintenant, c'est devenu un frérot, vraiment un grand ami. Et il a mon respect. Parce qu'on dit jamais assez les choses bien. Et je voulais vraiment mettre ça à l'honneur.
Voilà. Ouais, bah, on le salue. C'est vrai qu'il fait beaucoup. Merci pour le stand-up beaucoup. À Marseille. Et il donne sa chance à beaucoup de monde, surtout. Donc ça, c'est une qualité que peu ont, justement. Donc, tu as ce projet de spectacle. Mais tu as d'autres projets là qui arrivent pour l'année à venir ou pas?
Ouais, je fais beaucoup de vidéos, tu vois, sur Insta, TikTok et tout. Je m'éclate beaucoup.
J'ai vu passer. Donc, il y a des chansons aussi.
Yes, ouais. Au prochain Ramadan. Sur un cha-cha-cha. Non, mais sinon, je me suis plus mis sur la vidéo. Mm-hmm. Je prends énormément plaisir. Là, je suis en train d'écrire une série et un film avec mon cousin, Naïl Kolaï, que j'embrasse. Qui est scénariste de métier, tout ça, et dans un registre beaucoup plus sérieux. Ça va être un thriller, le premier, et le deuxième plutôt un gangster.
Okay.
Un gangster oriental, voilà. Okay. Mais c'est pas une comédie, c'est vraiment. Il y aura des moments de comédie, de légèreté, mais j'ai écrit ça il y a plus de 15 ans, en fait, sur un bout de papier, d'idées, j'ai les trames, tout ça. Mais comme j'ai pas de formation en scénariste, tout ça, du coup, mon cousin va m'aider à structurer tout ça.
Ouais.
J'ai l'histoire dans ma tête. En fait, moi, souvent, mon inspiration, c'est la musique. Donc, dès que j'ai la musique, j'ai une idée. Boum. Okay. Et le théâtre, l'impro aussi, avec les Niçois Nilois, qui est ma troupe d'impro. Bon, vu que je bouge beaucoup, c'est compliqué, mais jouer et jouer le maximum le spectacle pour l'améliorer, pour qu'il soit, tu vois, comme on dit, un petit rodage, entre guillemets. Et pour qu'à la fin, ça soit une petite pépite qu'on puisse offrir aux personnes et venir avec des nouvelles blagues.
Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et pour te retrouver, c'est où, du coup, Miloud?
Moi, c'est sur Instagram, Miloud, M-I-L-O-U-D, comme Milou et Tintin avec un D à la fin. Et mon nom de famille, Ariz, H-A-R-I-Z, aussi sur Facebook, il y a la page. Sinon, sur TikTok, c'est Miloud Ariz avec le chiffre 1, parce que sinon, si vous tombez sur mon cousin du bled, qui est beaucoup moins drôle.
Voilà. On retiendra ça. C'était un plaisir de te recevoir, Miloud. On se retrouvera l'année prochaine, après ton spectacle, pour nous faire un retour sur cette aventure, en espérant que le film soit tourné, que les réseaux fonctionnent et que tes enfants aillent bien, et ta femme surtout, qu'on salue.
Merci infiniment.
Et qui tient le foyer à bout de bras, heureusement, merci à elle. Je la remercie pour toi, je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Allô chérie, tu connais Yas? Je suis pas au courant de tout, bordel.
Merci à toi, Milo.
Merci à toi, bisous. Ciao, ciao.